Coucou la MIF, micro promo pour vous dire que je repars en tournée de blagues. Je suis en train d'écrire le nouveau spectacle. Je le jouerai en rodage de janvier à mars à Bruxelles, tous les jeudis au Petit Kings. Ensuite, tournée de rodage en France, Marseille, Grenoble, Aix-en-Provence, Reims, Chambéry, La Rochelle et plein d'autres. Puis direction Paris d'octobre à décembre, tous les mercredis et jeudis au Zèbre de Belleville. C'est une salle trop trop belle où il y a une tyrolienne pour arriver sur scène. Est-ce que c'est pour ça que j'ai voulu jouer là-bas ? Vous n'avez aucune preuve. Donc venez, franchement ça va être marrant. Toutes les dates sont sur mon site fannyruet.com. Il y a aussi les liens pour les tickets. Donc voilà, j'ai trop hâte. Des bisous.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Ça paraît prétentieux de dire qu'on n'est pas heureux. Genre, on est à l'aise avec le fait qu'on n'est pas heureux. Non, tout le monde veut être heureux. Il y a une différence entre le sentiment et l'émotion, quoi. Évidemment que des fois, on a des petites choses fugaces qui nous traversent. On est à une soirée entre des potes et on passe une soirée archi heureuse. Mais le fond du roulement de notre cœur, c'est plus complexe. Je pense que quand on fait ce métier, la base de ce métier, c'est de prendre du recul. Une blague, c'est prendre du recul. Du coup, quand on est habitué à tout analyser, on se met à avoir un recul avec la vie, quoi. Du coup, le fait d'être en recul avec tout ce qu'on rencontre, ça fait qu'on peut difficilement être heureux.
Mais oui, cette semaine dans le podcast, je reçois Panayotis Pasco. Si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, il est humoriste et comédien. Il a seulement 21 ans, mais a la carrière de quelqu'un qui a le double son âge. Il a travaillé pendant 2 ans pour Le Petit Journal et Quotidien. Ensuite, il a quitté la télévision pour se consacrer à ses projets à lui, à savoir la réalisation et le stand-up. Donc depuis, il a écrit, réalisé et joué dans plein de trucs sur YouTube. Il apparaît dans quelques films également. Il y a pas longtemps, il a sorti un court-métrage avec Alex Lutz qui s'appelle Merci de votre visite. Et puis surtout, l'année dernière, il a commencé à jouer son premier spectacle d'humour qui s'appelle Presque. On en a beaucoup parlé pendant l'interview. On a aussi abordé donc ses débuts dans le stand-up, l'introspection qui est inhérente au métier d'humoriste. On a parlé de légitimité, de toutes les fois dans sa vie où il s'est dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» De la frontière assez mince entre vie privée et vie professionnelle quand on travaille dans les domaines artistiques, de la peur de l'engagement, de vulnérabilité qu'il montre beaucoup plus facilement sur scène que dans la vie, et de comment Alex Lutz lui a percé le tympan. Le podcast est enregistré dans un café, donc il y a la petite ambiance sonore qui va avec, mais rien de bien dérangeant je pense. J'espère que l'épisode vous plaira. Est-ce que tu veux bien parler ?
Grave. Comment ça va ?
Mais ça va bien.
Tu veux que je te fasse des tests ? Je m'appelle Jean-Marc Odigier. Je suis producteur de musique électronique depuis 1984. Mm-hmm. C'est mon test son universel que je fais toujours.
D'accord. On a plusieurs points communs, dont celui qu'on s'est déjà branlé sur des gifs Tumblr.
Ah bon ?
Ouais.
Comment tu sais ça ?
J'étais là. Je sais plus dans quoi tu l'as dit. Mais ça
ouais.
Me fait plaisir de pas être seule.
Ça c'est mon gros souci, c'est que j'oublie que je dis des trucs et après on me les redit des fois. Des fois il y a des gens, ils viennent me voir genre dans des bars à 1h du mat alors que je suis un peu bourré, ils me disent hey, c'est vrai que... Et moi je suis en mode quoi ? Ah bon, c'est vrai ? Et du coup ça me rend parano. Mais oui, oui. C'est une longue histoire. C'était un moment où j'ai essayé de me sevrer des sites pornographiques.
Ça a marché ?
Oui et non. Mais je suis passé par le GIF. En me disant que ça allait être... une bonne demi-étape avant l'arrêt total, quoi. C'est comme les patchs pour ceux qui fument. C'est un gif, c'est l'équivalent d'un patch sur le bras pour le porno.
C'est un patch sur la tub.
Exactement.
D'accord. Quand t'as démarré dans Quotidien et tout, il y avait beaucoup de ce que tu faisais qui était basé sur le malaise et sur le fait que les gens savaient pas comment réagir à ce que tu faisais. Pourquoi t'as démarré avec ça, en fait ?
Pourquoi j'ai démarré avec le malaise ? Bah écoute, j'ai pas trop eu le choix. Parce que c'était vraiment là. En fait, j'ai fait un casting pour arriver à la télévision. Et ce qu'on m'a proposé, c'était une chronique où il fallait que j'aille interviewer des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi à l'époque. Bon, toujours aussi aujourd'hui, je pense. Mais... Donc c'était quoi ? C'était il y a 6 ans, je pense, de ça. J'avais quoi, 16 ans quand j'ai fait le casting ? Et en fait, du coup, le seul moyen que ces gens-là me prennent au sérieux, c'était de créer une sorte de grande distance entre eux et moi. Et du coup, il fallait que je trouve un personnage et on allait un peu vers le malaise dans la facilité parce que c'est toujours quelque chose qui est efficace à l'image. Et du coup, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment choisi. Je pense que si j'avais pu choisir autre chose, j'aurais pas forcément utilisé le malaise. Et d'ailleurs, quand les chroniques ont avancé, quand on arrivait en deuxième saison ou autre, les chroniques étaient plus portées, étaient plus portées sur le malaise en tout cas, étaient portées sur d'autres choses.
Comment t'aurais fait si t'avais toi choisi au départ exactement la...
Écoute, je pense que à l'époque, je connaissais rien du tout à l'humour. J'ai été éduqué à l'humour par la personne avec qui je travaillais à la télévision qui s'appelle Freddy Gladieux. Et donc nous on était potes depuis quelques temps grâce à un réseau qui s'appelait Vine, où on faisait tous les deux des vidéos dessus, donc on s'était rencontrés.
Un réseau qui s'appelait Vine, hein, ouais, comme bah si oui. C'était autant jadis.
Bah oui, autant. Aujourd'hui, j'espère que quand sera diffusé ton podcast, les réseaux n'existeront plus. Non, mais du coup, ouais, il m'a vraiment éduqué à l'humour. Et je pense que très vite j'ai compris que ce que j'aimais c'était les choses personnelles, bienveillantes, très marrantes, et j'aime bien les choses bien écrites. Genre, j'aime bien les trucs qui glissent, qui sont fluides. Et je pense que je serais allé plus vers quelque chose comme ça.
Et si au départ t'étais angoissé du fait de t'adresser à des gens qui étaient beaucoup plus âgés que toi et que la distance tu l'as mise via ce type de truc, comment tu fais maintenant pour genre accepter ce truc de t'es plus jeune que les trois quarts des gens qui viennent te voir? Est-ce que ça en fait encore une différence ou est-ce que maintenant tu
t'en fous? Non, ça fait plus forcément de différence. Non, okay. Non, parce que déjà personne sait que j'ai mon âge.
C'est vrai.
Des gens ils pensent que j'ai 26 ou 27 piges. Mais le en fait je pense que j'ai commencé à faire des blagues parce que justement je voulais être aimé par les gens un peu plus grands, et du coup un des moyens de leur montrer que je me laissais pas faire et que blablabla c'était de faire des blagues. C'était aussi un moyen de cacher son malaise, ça c'est quelque chose que tous les humoristes connaissent, mais souvent on fait des blagues quand on se sent pas trop à notre place. Et du coup, ouais, le malaise a été assez facile comme ça au début. Et puis après, je me suis très vite rendu compte que j'en avais pas forcément besoin. Et du coup, mon spectacle est un spectacle 100% malaise free.
Oh là là.
Ouais, bah ouais.
C'est joliment dit. Dans le podcast avec Louis Dubourg.
Un café au Lossette.
Un café au Lossette. Tu parlais d'un truc que j'avais jamais mis des mots là-dessus, mais que les humoristes parlent souvent des conséquences et pas de la jeunesse des choses. Et donc, ils vont parler de couple plutôt que de parler du sentiment amoureux. Comment, du coup, ça se passe dans l'écriture? Parce que t'écris avec d'autres gens, il me semble. Comment vous faites?
Alors, j'écris pas avec d'autres gens. J'écris, moi, mes trucs. J'écris toute la structure. Je sais pas si on peut parler de vrais termes de travail, mais on fait le même métier, donc... mais en gros, j'écris toute la structure. Je vais écrire tout. Et une fois que j'ai mon petit produit, une fois que j'ai mon petit cake, je le présente aux personnes avec qui je travaille, qui sont Jason Brokers, Adi Balkhalidé et Farid. Et eux, ils me disent, tiens, il faudrait que tu mettes un peu de cannelle ici. Tiens, ici, il faudrait que tu coupes la part de cake comme ceci. Il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses cela. Ça pourrait fonctionner. Après, on teste. Et après, j'aimerais bien essayer un jour d'écrire directement dès la genèse avec des gens. Mais je pense qu'on peut pas faire ça en stand-up. Je pense que le stand-up, quand tu dois monter sur scène seul devant des gens avec une idée, il faut que cette idée vienne du fond de ton cœur. Parce que si jamais c'est venu d'un brainstorm dans une salle de réu avec des gens en costume, tu seras pas très à l'aise de le faire 500 fois devant les gens.
Ah, parce que vous brainstormez en costume, vous?
Ouais, tous. Moi, je suis toujours. Bah, là, les gens voient pas, mais je suis en costume en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Ouais, bien sûr.
C'est vrai. Avec un masque.
Oui.
Est-ce que le stand-up te permet de mieux comprendre la façon dont tu fonctionnes parce que t'es obligé de le structurer, de structurer ta pensée pour pouvoir l'expliquer?
De ouf. Ça, c'est une vraie chance. C'est-à-dire que on a vraiment cette chance parce que la plupart des gens ont un métier où ils ne peuvent pas penser à eux durant l'exercice de leur métier. Et du coup, l'activité de penser à soi, de penser à ses besoins... c'est quelque chose qui est superflu, c'est quelque chose qui va être un bonheur le soir d'y penser. La dernière fois, j'avais ce débat-là avec un ami et je lui disais c'est fou parce que notre métier, on pense tous les jours à notre ambition. C'est-à-dire que c'est vraiment un des nerfs de la guerre. Tous les jours, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire, où est-ce qu'on se voit plus tard. Et en fait, l'ambition, c'est quelque chose auquel peu de gens sont confrontés tous les jours. Et du coup, c'est pour ça que des fois, il y a plein de gens qui confondent ambition et prétention. Tu sais, dans nos entourages, quand on dit qu'on veut faire ce métier, la plupart des gens disent « oh là là !» Alors que, et du coup, c'est assez marrant de voir que nous, on a vraiment cette chance de pouvoir tous les jours être focus sur nous. Et en plus, notre métier, c'est de raconter des choses sur soi. Donc c'est vraiment une énorme chance. C'est-à-dire que toute la journée, on réfléchit sur notre nombril en se disant « qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter le soir ?» Et le soir, on confronte ce qu'on a compris de notre nombril face à des gens qui ont payé pour nous voir parler notre nombril. Ça n'a aucun sens, ce métier. Mais c'est une énorme chance, parce que du coup, ça nous permet de mieux comprendre beaucoup de choses sur nous, beaucoup de choses qui nous traversent, beaucoup de choses qui ne nous traversent pas. Pourquoi ? Et aussi, beaucoup de choses, de remédier à certaines choses. Moi, je trouve ça... J'adore ce côté très... j'allais dire life coach des humoristes, mais il y a ce côté très... moi, je connais beaucoup d'humoristes qui évoluent très vite, tu vois, en fonction de ce qu'ils découvrent sur eux. Il y a peu d'amis à moi qui ne sont pas humoristes qui m'ont déjà dit « Je trouve que je suis prétentieux en ce moment, je trouve que je suis ceci en ce moment. » Et en fait, des humoristes, c'est vraiment une chance qu'on a, c'est de pouvoir façonner notre personnalité aussi de manière aussi journalière, quoi, je sais pas comment dire. C'est vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment fou. On devient notre propre œuvre, en fait, à la fin.
Il y a des gens qui ont parfois pris ton ambition pour de la prétention ?
Ouais, quand t'es un peu plus jeune, ouais. Ouais, ça me paraît normal. Quand tu dis « j'aimerais faire ça » ou autre, la plupart des gens sont en mode « Ok, mec, pour qui tu te prends à vouloir faire ça ?»
Et ça te faisait quoi ?
Pas grand-chose, parce que je sais qu'ils savent que je ne suis pas comme ça au fond. Je sais qu'ils savent, ouais. Je sais pas toujours conjuguer mes verbes. Et... du coup, ça me dérangeait pas, parce que je savais qu'au fond, ils ne pensaient pas ça de moi. Mais je sais que souvent, il y a une différence de compréhension entre nous, artistes, je mets bien des grands guillemets, par exemple, je sais pas, leur famille ou autre, parce que en fait, les gens ont du mal à comprendre que on doit mélanger ambition en vie personnelle. On doit mélanger vie privée et vie perso. On doit mélanger marque et nous, parce qu'à la fin on devient une marque. Quand on est un humoriste, on se vend soi. C'est très bizarre, et du coup il faut qu'on soit très à l'aise avec ce qu'on fait. Et du coup, souvent on fait des ponts entre tout ça, et les gens ne comprennent pas forcément ça, tu vois. Et c'est ça qui est un peu dur, et c'est ça qui fait que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui deviennent des beaux connards. C'est aussi que, même pour nous, c'est dur de comprendre la frontière. Mais en fait, on devient notre propre job, en fait, je sais pas comment dire. Si tu travailles à la poste c'est une identité séparée de toi. Moi, quand je travaille sur scène, mon métier c'est moi, je suis ma poste, je suis mon infrastructure. Et du coup c'est très particulier, c'est-à-dire qu'on doit être très précautionné, et souvent on déborde un peu sur notre vie privée, et du coup ça c'est parfois difficilement compréhensible pour les autres. Et c'est pour ça que c'est souvent dur d'être dans la famille d'un artiste ou d'être en couple avec un artiste ou une artiste. C'est que Il y a vraiment cette distinction qui est dure à faire, et pour nous, et encore plus je pense pour les gens, et qu'on fait souvent subir. C'est que, en fait, il n'y a pas de vraie distinction entre notre vie privée, notre vie artistique et notre vie publique.
Et d'un point de vue strictement personnel, c'est un truc qui te dérange, toi ? C'est un truc avec lequel tu as du mal, des fois, de pas être libre de tout ce que tu veux, parce que tu as aussi la marque qui suit, quoi ?
Non, c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose qui me pèse, c'est quelque chose que j'ai choisi. Mais je peux comprendre que ça peut être pesant pour certaines personnes, tu vois. Ça va, en plus la chance aussi c'est que j'ai été habitué à 17 ans, tu vois, être confronté à ça. Quand j'étais au lycée à Évry en banlieue, j'allais le soir en taxi pour faire des plateaux à Quotidien, tu vois. Donc j'ai tout de suite très vite été confronté à ce truc de tout mon lycée me détestait, tu vois. C'était vraiment un truc de ce qui est absolument normal. Du coup ça va, je suis rodé là-dessus.
Pourquoi c'est normal ?
Parce que je dis que c'est normal. Je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs. Je dis que c'est juste très répandu. Mais quand je dis que c'est normal, c'est parce que je peux comprendre que ce soit difficile de comprendre. C'est ça, ouais. Le truc. Je peux comprendre que. Moi j'étais un peu le mec excentrique, chelou, les gens m'aimaient bien, tu vois, j'étais cool et tout, mais j'étais un peu le gars qui faisait trop de vannes, trop de trucs, qui était un peu casse-couille et tout. Et du coup, quand je suis arrivé à la télévision et tout, je me souviens du lendemain de la première diffusion, donc Le Petit Journal c'est quand même une émission qui était pour les jeunes, donc c'est vraiment la cible, c'est les 17-30, quoi, donc c'est vraiment la cible des lycéens aussi. Du coup, je me souviens du lendemain quand je reviens et que tout le monde me regarde, et je me suis tout de suite dit: ah mais ça y est, en fait on va plus t'aimer, en fait c'est terminé. Et il y avait vraiment ce truc de on me regardait un peu bizarrement, tu vois, c'est un peu un freak show, quoi. C'est un peu le truc très bizarre de, c'est difficile à comprendre, et je comprends que ce soit difficile à comprendre.
Est-ce que tu te définis par ton travail?
Je pense que oui.
Est-ce que c'est un truc avec lequel tu es OK ou est-ce que c'est quelque chose que, sur lequel tu essaies de travailler justement?
Me définir par mon travail?
Ouais.
Me est-ce définir
ça,
auprès
ça
de qui?
Ça te dérange? Bah auprès de genre te donner de la valeur quand tu accomplis quelque chose de professionnel.
Ah oui, ah bah oui, ça c'est une bah mais ça je pense que c'est encore une fois, je pense que c'est beaucoup mais d'ailleurs je pense que c'est répandu dans beaucoup de métiers. Tu peux prendre des métiers comme trader par exemple, un trader souvent quand il fait un putain de truc et qu'il gagne 2% sur son capital, le mec a l'impression d'être trop chaud, tu vois ce que je veux dire, alors que ça reste son métier, mais il a l'impression d'être trop chaud dans la vie. On connaît plein de métiers où ça déborde aussi comme ça, et je pense que humoriste ou artiste, quand on a quelque chose qu'on atteint dans notre métier, on a quelque chose de personnel qui s'ouvre, et dès qu'on bite sur scène pendant 2 semaines, on a l'impression qu'on est une merde et qu'on peut parler à personne et que truc. Donc il y a, là encore, c'est une des difficultés de la frontière entre notre vie privée et notre vie professionnelle, et c'est ça qui fait que des fois c'est aussi quelque chose que subit notre entourage, tu vois. Moi quand j'étais il y a pas si longtemps que ça, c'était mes débuts sur scène, en vrai c'était il y a 4 ans. Et à l'époque, je voyais beaucoup une fille, et je me souviens qu'elle en pouvait plus de quand je fonctionnais, j'étais super détente, super cool, c'était sympa, je voulais qu'on sorte. Et dès que le spectacle ne fonctionnait pas ou que j'arrivais pas à faire mes trucs sur des plateaux, je rentrais, je voulais être seul, je voulais parler à personne. Et elle en pouvait plus de cette hétérogénéité de mon bien-être en fonction de mon métier. Elle en pouvait absolument plus.
Et là, t'es encore aussi perméable à ce genre de choses?
Beaucoup moins. Parce que il y a moins de fois où ça fonctionne pas. Le rodage. Non, j'ai compris que ça fait partie du métier. Ça, j'ai mis du temps à le comprendre, que en fait, ne pas fonctionner, ça fait partie du métier. Ça fait partie. Il y a aucun métier où tu c'est que des bonnes journées en fait. Ça fait partie du métier. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que si on ne fonctionne pas, on est une merde. Alors que si tu es professeur des écoles et que t'as pas réussi à faire passer ta leçon aux élèves, tu vas pas te dire je suis une merde, tu vas juste te dire bon bah faudrait que je fasse mieux demain, faudrait que je réussisse ça, faudrait que demain je vais leur mettre plus de devoirs, et demain on va reparler de la guerre de sécession parce que je crois qu'ils ont pas très bien compris aujourd'hui. Mais au moment tu te dis je suis vraiment une merde, tu sais ce que je veux dire. Et nous dans notre métier, souvent on se dit je fonctionne pas, je suis une merde, je suis pas marrant. Et j'ai compris maintenant que bah non, en fait tu fonctionnes pas, ça arrive, il faut juste te remettre en question, bosser, et demain ça ira très bien.
Quand t'as quitté la télé, vu que t'avais déjà une notoriété, ça a dû être méga chaud de remettre un peu le truc en jeu, parce que je suppose que tout le monde devait t'attendre au tournant en mode bah vas-y, sois bon dans un truc qui est pas de ton domaine.
Oui.
Et comment t'as géré le fait que t'étais déjà connu avant d'essayer, donc que tu pouvais pas vraiment démarrer à zéro et d'avoir cette légitimité de rater comme les autres?
Alors c'est marrant, mais déjà je me suis laissé pousser les cheveux et la barbe, comme ça il y avait beaucoup moins de gens qui faisaient le lien entre la télé.
C'était pour ça ?
Hein ?
C'était le but,
ouais,
c'était ça ?
Je pense que c'était le but. C'est arrivé vraiment au moment où j'ai démissionné, j'ai décidé de laisser pousser. Donc je pense que inconsciemment c'était ça. Et puis après non, j'ai fait du coup 1 an de stand-up que sur des plateaux pour apprendre le métier, les rudiments, vraiment rudiments du métier, parce que t'apprends pas le métier de stand-upper en 1 an, et ni en 4 ans d'ailleurs. Je pense que ça s'apprend en 20 ans. Et puis l'année d'après, j'ai commencé à écrire un spectacle que j'ai rodé tout doucement au point virgule, mais vraiment vraiment tout doucement. Et là j'ai demandé à ne pas faire de com à mon producteur. C'est-à-dire, je lui ai dit je veux pas qu'on fasse d'affiches, je veux pas qu'on fasse de flyers, je veux pas qu'on fasse de com digital, je veux pas qu'on fasse de plateau télé, je veux pas qu'on fasse de trucs. Je veux vraiment juste que les gens viennent sans du tout savoir qui je suis, pour pouvoir me roder. Parce que sinon le pire, quand tu te rodes avec des gens qui t'aimes bien, des réseaux, de la télé, de ceci, c'est que du coup t'as aucune idée de si ce que tu fais c'est bien.
Ouais.
C'est comme quand ta mère elle te demande est-ce que c'était bon ce que j'ai mangé, bah non, va faire goûter ça à la voisine, elle te dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Et moi t'es ma mère en fait, je suis sorti de ton vagin, je suis obligé de te dire que ton crumble il était pas mal. Et du coup j'ai fait ça pendant 1 an, c'était tellement dur parce que je jouais au point virgule et du coup il y avait 30 personnes dans la salle. Il y avait même un soir où on était genre 12, un truc dans le genre, 12-13, parce qu'en fait c'était beaucoup de gens qui remplissaient grâce à la salle, le point virgule remplit un peu tout seul, parce que c'est une salle un peu culte. Et du coup au bout d'un an, quand j'ai commencé à avoir une petite structure et tout, là on a commencé à faire un tout petit peu de com. Et à l'époque je me souviens on avait fait un truc vraiment de plouc, mais j'avais fait des trucs sur les réseaux en disant pour un projet secret, j'ai besoin de vos mails si vous êtes majeur et que vous habitez en région parisienne. Et on a reçu, je sais pas, genre 3000 mails et on a envoyé des mails aux gens, bah écoute, je roule mon spectacle, j'aimerais que tu viennes. En fait, on mettait moitié de gens de cette liste et moitié de vrai public, entre guillemets. Okay. Et du coup, j'ai encore rodé pendant un an. En fait, ça fait 5 ans que je fais du stand-up, bientôt 5 ans. Et après, j'ai lancé le spectacle officiellement. Mais du coup, j'ai voulu créer des situations qui me permettaient de pouvoir quand même partir de zéro pour la scène.
Est-ce que ne pas choisir la facilité, c'est un truc pour lequel tu dois vraiment travailler, ou est-ce que ça vient quand même assez tout seul ?
Je pense que je choisis la facilité, hein.
Pardon ?
Je pense que je choisis la facilité. Je...
Bah, la facilité, ça aurait été de rester en télé. Parce que
ouais, non, ça c'est parce que j'aimais pas le médium. C'était trop cool de travailler avec ces gens, c'était une trop bonne équipe et tout, hein, mais j'aimais pas le médium. Donc c'est vraiment. Là, au contraire, c'est, ce qui aurait été difficile, c'est de prendre sur moi et de me dire, bon, bah, essaie de faire en sorte que ça te plaise. Là, ça m'a juste pas plu, j'ai dit, bon, bah, j'arrête. Donc c'est vraiment la facilité.
Tu l'as fait quelques années quand même.
Comment ? Au bout de deux années, ouais.
Okay, et là...
du coup j'ai démissionné et la scène là où il y a eu une facilité, c'est quand même, il y en a eu une, c'est que c'était beaucoup plus facile d'avoir accès à des plateaux, tu vois. Dès que j'ai commencé à faire du stand-up, je jouais 5-6 fois par semaine, ce qui n'arrive pas quand tu commences le stand-up. Donc ça aussi c'est une vraie chance. Je peux pas dire que j'ai pas choisi la facilité. J'ai commencé dans les bas-fonds des caves de oui, mais quand même j'avais plus de créneaux que quelqu'un qui débute, donc c'est une vraie chance aussi, tu vois.
Ouais, mais c'est pas une facilité que t'as choisi toi. C'est juste genre tu connaissais les gens te connaissaient et puis ça s'est fait comme ça. Mais t'aurais pu dès le départ démarrer un peu sur le chapeau de roue en mode démarrer directement avec un spectacle, faire la com en sachant un peu bancal.
Après ça, c'est parce que j'ai un frère qui est entrepreneur. Il m'a très très vite borné la tête avec ces idées-là d'investissement sur du court terme, du long terme, etc. Et du coup, ça fait que dès que j'essaie de faire un truc, je me dis, ok, sur le court terme, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Sur le long terme, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Et du coup, je me suis très vite dit au début, bon bah ok, si je fais mon spectacle, que tout de suite je fais de la com ou autre, qu'est-ce qui se passe sur le court terme ? Bon bah on remplit, parce que grâce à la télé, on va remplir un petit peu, mais j'aurais pas eu le temps de me roder, du coup il y aura pas de bouche à oreille, du coup ceci, du coup cela, du coup le spectacle sera pas bon, du coup moi je serai pas à l'aise avec ce que je fais sur scène, du coup ça va être une spirale infernale, et au bout de 2 ans, je me sentirai mal. Et du coup je me suis dit, bon bah mieux vaut galérer pendant ces 2 ans-là, pour pouvoir après faire un truc avec lequel je suis très à l'aise. Et donc je pense que ça aurait été de la facilité de faire le spectacle en chapeau de roue si jamais j'avais pas eu cette réflexion sur le plus long terme, tu vois. Mais du coup, sur le plus long terme, la facilité, c'était de faire ce que j'ai fait. C'était de me dire, bon bah, pendant 2 ans, t'as gagné un peu de sous à la télévision que t'as mis de côté, tu vas pouvoir vivre tranquillou. Va jouer pour 25€ dans des caves à Paris. Rôde-toi, fais-toi kiffer, découvre des nouveaux amis. Parce que ce qui était compliqué aussi à la télévision, c'est que je travaillais tout le temps, donc j'ai pas eu le temps de me faire beaucoup de potes. Et du coup voilà, ça a été vraiment 2 petites années sabbatiques où j'ai bossé à la fois, mais je découvrais en fait, moi j'ai été un peu curieux de quand je découvre un truc, je suis trop excité, donc moi j'ai vraiment vécu ça comme des petites vacances, même si bon, tu connais ce métier là mais on rentre beaucoup en pleurant chez soi quand ça fonctionne pas.
Ça s'appelle juste la vie.
Ouais, ça s'appelle la vie, c'est vrai, mais dans la vie il y a pas 80 personnes qui te regardent en disant c'est nul dans leurs yeux, et du coup
la famille
c'est vrai. Et du coup j'ai vécu ce truc là vraiment comme une sorte de petite colonie un peu cool, et après j'ai lancé le spectacle, ça s'est fait de manière au final assez facile, vraiment. Ce serait mentir que de dire que j'ai pas choisi la facilité.
D'accord, tu as choisi la facilité.
Merci, je voulais que tu me redises.
C'est quoi tes plans du coup sur le court terme là ? Je sais qu'au final t'aimerais faire de la réal, faire un long, je sais pas si ça s'est concrétisé ou si tu peux en parler.
Non, bah, oui, si. J'ai fait un petit court métrage dont je suis archi fier.
Avec Alex Lutz ?
Ouais. Et j'en suis fier. Il y a plein de merde, hein, mais c'est normal, c'est un premier truc. J'en suis fier pour autant, parce que ça m'a permis de comprendre une chose qui est, je trouve, fondamentale. C'est que quand j'ai écrit, réalisé, tourné, monté, truc, que j'étais sur toutes les étapes, il y a à aucun moment je ne me suis pas senti à ma place. Alors que dans beaucoup de pseudo-métiers que j'ai testés ou que j'ai tentés ou autres, par exemple, quand je suis comédien sur un une série, un long métrage, une capsule sur internet, je me sens jamais à ma place. Par contre, quand j'étais derrière la caméra, j'avais vraiment l'impression d'être à ma place. Et du coup, je suis fier d'avoir compris ça, vraiment d'avoir fait ce projet pour comprendre ça. Je me suis senti archi à ma place et du coup, ça m'a vraiment confirmé l'idée que j'ai envie de faire ça. Et du coup, je prends le temps parce que j'ai pas envie de me dire vas-y, faut que tu fasses un truc là bientôt, rapidement. Là, j'ai mon spectacle. Je travaille tout doucement sur des idées de long, sur des idées d'autres choses. On travaille sur un projet en commun d'ailleurs avec d'autres humoristes qui sera pas de la scène. Mais je me laisse le temps vraiment que ça mûrisse dans ma tête parce que, bah, comme pour la scène, quand tu commences, tu peux pas tout de suite commencer à écrire un spectacle. Il faut d'abord que tu comprennes un peu les rouages, faut que tu te nourrisses beaucoup. Il faut que tu comprennes que c'est pas aussi simple que quand tu regardes au cinéma un film. Et du coup, là, je suis dans cette période de nourriture.
Quand tu dis que tu te sens pas à ta place sur les autres projets, ça vient d'où, tu penses? Ça vient du fait que c'est pas ton projet, donc t'es pas vraiment à l'essence du truc, ou...
Non, pas forcément. C'est plus un... Ça, c'est un truc que Farid m'a beaucoup aidé à faire avancer, mais j'ai depuis tout petit, mais c'est... Encore une fois, je pense comme beaucoup de personnes qui font des blagues, on commence à faire des blagues, parce que faire des blagues, ça détourne l'attention de nous. Les gens... la blague devient une autre personne que nous, c'est vraiment un petit masque, on devient un clown, quoi. Et ça permet de ne pas avoir de discussion sérieuse. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, Alex Luce se dit dans son spectacle, je pense que les blagues ont été inventées pour contrer une situation trop sérieuse. C'est-à-dire que lui dit un homme préhistorique qui était à deux doigts de se faire tuer par un autre homme préhistorique qui a fait un faux paix avec sa bouche, et l'autre a rigolé. Et je pense que c'est vraiment ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on est petit et que d'un seul coup il faut être sérieux, on fait des blagues parce qu'on ne sait pas être sérieux et on ne se sent pas à notre place quand ça devient trop sérieux. Et du coup, je me suis très 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 souvent, quand j'étais à la télévision, j'avais l'impression d'être le petit stagiaire alors que j'étais un chroniqueur comme les autres, un humoriste plateau comme les autres. Quand j'ai commencé la scène, je me souviens d'un soir au Paname où il y avait un plateau et t'avais Jason Brokers, Farid, Kian, Marina Rollman, je crois, et Roman Frécinet, et j'étais là au centre et je saluais à la fin avec les autres. C'était l'époque où on saluait encore au Paname à la fin, tous ensemble, et je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu n'es pas dans la salle à les applaudir? Et du coup, ouais, Farid m'a beaucoup aidé à comprendre en fait, c'est pas à toi de décider quand t'es légitime, c'est aux gens de le décider. Et du coup, même si au fond de toi, t'as toujours l'impression que tu l'es pas, à partir du moment où t'es sur scène et qu'il y a des gens qui viennent te voir, c'est que t'es légitime. Et du coup, je sais pas, je pense que ça vient souvent de ça. Quand je suis comédien, j'ai l'impression que c'est pas mon métier. Moi, quand je me réveille, je me dis pas, je suis comédien. Du coup, d'un seul coup, d'être payé pour être comédien, je me dis, non, il y a un truc qui fonctionne pas. Et du coup, je suis très mal à l'aise, je sais pas faire. Dès que je parle doucement, sur un tournage, on m'embrouille souvent pour ça. Le réalisateur, il vient me parler, il me dit devant tout le monde et tout, et moi je suis en mode, chut, arrête frère, qu'est-ce que tu fais? Et tout le monde m'embrouille à cause de ça, de mais parle plus fort, qu'est-ce que tu fais là, on dirait un enfant. Moi je suis en mode, oui, non mais c'est parce que, enfin, je veux pas déranger les autres, qui se concentrent. Donc je pense que ça vient de là, ça vient de vraiment ce truc d'enfance, d'avoir l'impression de ne pas être à sa place.
Ce truc d'enfance? C'est-à-dire?
Ce truc d'enfance, d'avoir le sentiment d'être... Moi, j'étais le petit dernier, donc j'avais vraiment l'impression d'être souvent là parce qu'il fallait que je sois là, parce que je fais partie de la famille, mais pas là vraiment, et on s'en fout un peu de lui, ou on lui fait croire qu'il est là, mais c'est comme tous les petits derniers, tu vois.
Ah ouais, c'est pas genre les préférés?
Non, mais le petit dernier, c'est genre quand il y a des réunions de famille, on le met là, il est à la table. Quand il mange, on le met à la table, mais on lui donne des petits trucs un peu. On
ah
lui
oui,
coupe
c'est
sa
pas,
viande.
C'est pas trop une vraie personne.
Je pense que ça vient aussi de là, ouais. Tu vois, et ça vient du fait que, je sais pas, ça commence à arriver, mais j'ai du mal à me sentir à l'aise quand ça devient très sérieux, quand une discussion devient très sérieuse ou autre. J'ai du mal à je sais le faire maintenant, tu vois, mais j'ai du mal à être trop sérieux. Quand en cours c'était trop sérieux, je comprenais pas, je me disais mais qu'est-ce que je fous là, et du coup ça vient un peu de ce petit truc d'enfant, quoi, de se dire mais qu'est-ce que tu fous là.
Comment t'as fait pendant ta dernière année pour arriver à quand même te concentrer sur tes études alors que clairement tu devais avoir la tête largement ailleurs et en avoir plus rien à foutre de ça?
J'ai triché.
Ah yes, ok.
Ouais. Voilà. C'était plus facile. Okay. C'était marrant parce qu'il y avait un cheval de Troie, je devais faire croire à mes profs que je bossais alors que je trichais un peu tout le temps, et je devais faire croire à ma mère que je bossais alors que je trichais un peu tout le temps. Donc je mentais la journée et le soir. On dirait une chanson de... Merde, c'est pas le nom de ma blague, tu te rends compte? Si je voulais faire une blague, c'est pas eu le nom.
Si tu veux, je couperai, retrouve-le, et comme ça fera genre
fluidité. La nuit, je mens...
Ah, Alain Bachung.
Alain Bachung. C'est-à-dire, on dirait une chanson d'Alain Bachung. Je mentais la journée en cours et le soir à ma mère. Et je faisais du saut à l'élastique dans le Vercors.
Yes, un classique. C'est quoi ton questionnement du moment? Le truc où tu dis, putain, je m'étais pas rendu compte de ce mécanisme chez moi ou de...
Ah, mon questionnement. Ah, je me demande si je me lasse pas trop vite de tout en ce moment. Genre de tout. Des gens, du travail, de la routine. Mais genre se lasser sale. Genre se lasser envie de crier et d'étaler mon caca sur la tête de la personne. C'est à ce point. Un petit peu. J'ai exagéré sur le caca. Je le ferai pas. Mais
même le travail, genre les choses pour lesquelles tu bosses depuis des années.
Ouais. Je me demande si en fait je suis pas juste un petit stagiaire qui kiffe découvrir un truc et une fois qu'il l'a découvert dit ok je veux découvrir un autre truc. Je me demande si une fois qu'il faut que je devienne employé dans l'entreprise, je me fais pas chier. Je sais pas.
T'as que
ce soit pour les gens, pour les ouais ça c'est une grosse frayeur. Grosse frayeur l'engagement, même pour les forfaits téléphoniques.
C'est vrai?
Non, c'était une blague. Non, blague de A à Z.
Pourquoi? Qu'est-ce qui t'angoisse?
Pourquoi peur de l'engagement? Je t'avoue, je sais pas. Faudrait que je creuse, faudrait que je revoie une psy. Non, je sais pas. Je t'avoue, aucune idée. Mais vraie frayeur de l'engagement. Genre, m'engager sur des vacances. Là, on m'a proposé de partir en vacances la semaine prochaine. J'ai rien de prévu la semaine pro. Mais je dis, je suis obligé de dire à la personne, j'ai des trucs de prévu. Je te dis, en fonction, parce que je peux pas savoir avant la veille si j'en aurais envie ou pas, et de m'engager, ça fait que j'en aurais pas envie. En fait, le fait que je sache que je suis engagé à le faire, quand ça arrive, je me dis, tu le fais parce que t'es engagé à le faire, et du coup, j'ai plus envie de le faire. Ça se trouve, je suis juste une petite merde en fait. On sait pas. Ça se trouve. Mais du coup, ouais, c'est grosse frayeur. Mais je crois que dans toute ma famille c'est un souci, donc je pense que ça doit venir de notre éducation parentale. Mais on a tous un peu peur de l'engagement.
Est-ce que tu as souvent des humeurs qui correspondent pas à celles que t'es censé ressentir à un tel moment?
Ah oui, bah oui. Bon, ça c'est, je pense que beaucoup plus de gens qu'on ne le pense font ça. Moi les premières fois que je prenais le métro, je me souviens que je regardais la tête des gens dans le métro en me disant ok, ça c'est la tête du métro, fais la tête du métro. Parce que moi, ma passion dans le métro, c'est de regarder les gens, d'être joyeux. Et je voyais que tout le monde faisait la gueule. J'étais en mode, faut faire la gueule dans le métro. Apparemment, c'est pareil aux enterrements. Moi, je suis le genre de personne qui, pour être triste, je suis obligé de regarder ceux qui sont tristes et de dire, ok, fais comme eux. Vas-y, nourris-toi de la tristesse de tata.
C'est très psychopathe, cette tendance au mimétisme.
Yep.
Mais d'ailleurs, je lisais tantôt le Society sur Xavier Dupont de Ligonnès et t'as plusieurs points communs avec lui.
Ah bon?
Ouais.
C'est vrai que j'ai coulé ma famille sous la terrasse. C'est le premier point commun, je dirais.
Ouais.
En deux, les lunettes.
C'est vrai. Mm. Mais, ok.
Mais je suis curieux, c'est quoi les points communs?
J'ai pas...
Il est bien ou hein?
J'ai pas fini. C'était quoi les points communs entre toi et... c'était quoi? Mais je te les enverrai.
Mais Avec plaisir, j'ai grave envie de savoir en quoi je ressemble à Xavier Dupont de Ligonnès. Vraiment quelque chose qui m'attire.
Tu l'avais jamais dit?
Non.
Ah bah voilà.
Non.
Bah je suis contente.
Et j'espère qu'on me le dira tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je meure. Ou jusqu'à ce que je fasse une lettre et que je disparaisse et que je devienne l'ennemi public numéro 1, j'en sais pas.
Comment tu vois la personne qui était sur scène?
Je me vois peu. Hein. Je me suis jamais vu sur scène. Je suis souvent dans moi pendant le spectacle. Non, je te jure que c'est vrai, il y a des moments où je suis pas dans moi pendant le spectacle.
Oh, mais ça, c'est normal.
Ouais. Il y a des vrais moments où pendant 10 minutes, je suis en train de me dire comment je vais cuisiner mes petites pâtes ce soir. Ce qui arrive quand t'es pas forcément concentré, que t'as pas dormi. Et que t'es sur scène. Mais non, comment je me vois, je pense que je suis très frivole. Je pense que sur scène, j'ai du mal à me concentrer. C'est-à-dire que je sais ce que je dois raconter, mais j'ouvre des portes partout pour raconter des mini-trucs, pour aller sur des terrains. Et des fois, ça paraît même quasi hystérique. Et ça me fait transpirer, mais j'aime bien ça aussi. C'est parce que je suis très calme dans la vie, très posé. Et du coup, d'un seul coup, sur scène, je suis un peu tout excité. Je sais pas, je suis assez jovial aussi. Genre, je suis pas très sérieux sur scène. Genre, je délivre pas mes trucs en mode regardez comment je suis chaud. Et les gens rigolent et je prends sur moi pour ne pas avoir un seul rictus. à la Sarah Silverman, qui d'ailleurs fait cette super blague qui dit avoir une blague à applause et après ne faire aucune tête et reprendre son spectacle, c'est comme quand les basketteurs ils font un 3 points et après ils reviennent sans broncher, quoi. Genre, ouais, c'est mon taf en fait, c'est normal. Et moi, c'est l'inverse. Quand je fais une blague et que les gens rigolent, je suis mort de rire. Genre, hey, c'est trop fou comme métier. Donc, je suis un peu teubé sur scène, mais j'aime bien.
Pourquoi t'es aussi différent sur scène?
Parce que je pense que c'est l'endroit où tu peux être le plus toi.
Et pourquoi tu peux pas l'être dans la vie?
Parce que mon éducation. Parce que sur scène, j'ai moins peur, je suis moins en contrôle. Et dans la vie, je suis en total, absolu contrôle. De tout, j'ai peur de la vulnérabilité.
Encore maintenant ?
Bah bien sûr, mais bien sûr, je montre aucune trace de vulnérabilité, même pour les gens qui me connaissent très très près, c'est très rare qu'ils voient une once de vulnérabilité en moi dans la vie. Et sur scène, je le suis, mais totalement. Je suis ouvert à tout. Et je pense que ce qui me permet d'être vulnérable sur scène, c'est qu'il y a un trajet déjà totalement écrit. C'est-à-dire, je connais le point A du spectacle, je connais le point B du spectacle, je sais par quoi je passe. Et du coup, le fait d'avoir un chemin quadrillé, ça me permet de faire des petits écarts sur ce chemin, d'être libre. Parce qu'il y a déjà un cadre, alors que dans la vie, je contrôle pas ce qui se passe. Du coup, vu que je suis déjà pas en contrôle du trajet que je prends dans la vie, je veux être en contrôle de ce que je ressens et de ce que je montre que je ressens. Alors que sur scène, c'est l'inverse. Vu que je suis en contrôle du trajet, je peux me permettre d'être beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus fragile sur ma manière de délivrer et d'entreprendre ce trajet. Donc c'est ça qui fait que je pense si je devais définir mon moi, il ressemblerait plus à celui qui est sur scène que celui qui est dans la vie. Et quand j'étais petit, que je voyais des interviews d'humoristes qui disaient mais moi j'ai l'impression d'être plus moi quand je suis sur scène, je me disais quelle bande de merde, c'est sûr que c'est faux, bande de petite merde. Et en fait je pense que c'est un peu vrai.
Est-ce que t'aimerais changer ça, le fait d'être aussi effrayé par la vulnérabilité et par le fait de pouvoir en parler toi-même que quand t'es sur scène?
Je sais pas si déjà de une, je pense que beaucoup de gens laissent peu de place à la vulnérabilité dans la vie, encore plus des hommes je pense, malheureusement. Ça va changer un de ces quatre, mais et je pense aussi que des fois c'est super bien d'être vulnérable, et moi c'est ce que je suis en train d'apprendre à faire dans la vie, mais c'est aussi bien des fois de ne pas l'être, parce que je pense que on est dans une société, je crois que c'est mon moment France Inter de gauche, mais je pense qu'on est dans une société où on a l'habitude de confondre fragilité avec vulnérabilité, et de confondre personne conne avec personne vulnérable ou qui n'est pas en contrôle en fait.
Alors qu'on peut être les deux.
Comment ?
Alors qu'on peut être les deux.
Alors qu'on peut complètement être les deux, mais du coup souvent on fait ce trajet là dans nos têtes, et du coup on est soit pas pris au sérieux quand on est trop vulnérable, soit on nous pigeonne en fait. Et je le constate autour de personnes, enfin je le constate grâce à des personnes, je suis peut-être en train de faire un ABC, je sais pas, je le constate grâce à des personnes qui sont autour de moi, qui sont très forts parce qu'ils sont très vulnérables et ils acceptent leur vulnérabilité dans la vie, et je vois que souvent ils se font marcher dessus et ça m'effraie. Donc je suis à la fois content et pas content de ne pas réussir à lâcher mon petit contrôle, je suis mon propre King Jeffrey.
T'aimerais être moins lucide ?
Je t'entends absolument pas.
Non, mais j'ai même pas les écouteurs en plus.
Non, mais c'est mes oreilles. Je suis un petit peu sourd à gauche grâce à Alex Schutz. Tu sais que c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée.
Allez, vas-y.
Même pas à lui, mais sur le court-métrage qu'on a tourné, à un moment, il devait me donner une claque et il m'a percé le tympan. Voilà. Et il ne l'a jamais su. Je ne l'ai jamais dit parce qu'il s'en voudrait à mort. Et je pense pas qu'il va écouter le podcast, donc ça va, j'en profite. Mais ouais, il m'a percé le tympan sans faire exprès. Hein. C'est moi qui. J'étais réalisateur, donc c'était à moi. Et je disais, mais moi, t'es une vraie grosse claque, je veux qu'on voit que c'est une vraie grosse claque. À un moment, il a fait pas. Et j'ai entendu. Et genre, je n'arrivais plus à tenir debout, je comprenais plus et tout. Et après, c'est. Ouais, percé le tympan. Et du coup, c'est revenu, mais je n'entends plus à gauche. Donc, enfin, un peu moins, tout va bien, mais
okay.
Voilà, super anecdote. Et ce qui est assez cocasse, c'est que dans le film, la claque qu'il m'a mis, j'ai tenu à mettre celle où il me perce le tympan, parce que quand on le voit, on se dit putain, mais il joue super bien Panayotis, alors qu'en fait, hey, je me suis vraiment fait percer le tympan. C'est facile de bien jouer une scène où on te tire une balle, si on te tire vraiment une balle. Et du coup, là, c'était un peu facile à jouer.
T'as encore choisi la facilité.
Et toujours, le gars ne fait que. Pour moi, la facilité, c'est une piste de bobsleigh. C'est la même chose. Je glisse.
Donc la question c'était, est-ce que t'aimerais être moins lucide?
Ah, lucide.
Ouais.
D'accord, j'ai compris. Est-ce que t'aimes bien Lucie au début, j'allais dire,
ouais.
Je sais pas qui c'est.
Je veux tout savoir.
Lucide. Je pense que Oui et non. Je pense que c'est difficile d'être heureux quand t'es extrêmement lucide, quand t'es extra lucide. Pour reprendre le fameux DC's. Non, je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est dur d'être heureux. C'est plus dur d'être heureux quand t'es lucide de tout ce qui se passe, de tout ce que tu traverses, de tout ce que tu. Tu entreprends. Je pense que c'est plus dur de comprendre les dessous de tes. En fait, je pense que la lucidité, c'est. Il y a deux types de lucidité. Il y a la lucidité de pourquoi je fais ça. Ça, c'est intéressant. Je pense que c'est même quasiment irresponsable de ne pas l'avoir. Des fois, il y a des gens qui font des trucs et ils ont 45 ans et tu vois qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font et je trouve ça compliqué. Mmh. C'est effrayant un peu. Mais aussi être lucide de ses affres, être lucide de ce qu'il y a tout au fond de toi et du petit truc qui crie et que tu peux dire à personne. Et ça, je trouve ça parfois un peu compliqué. Je trouve ça dur d'être heureux quand tu sais ce qui crie au fond de toi. C'est un peu compliqué.
T'es heureux ?
Bah non. Pourquoi ? Mais quelle question enfin.
Oui, t'as mais non, mais c'est, en fait, c'était.
T'es heureuse, toi ?
De base, je voulais demander est-ce que tu penses que tu vas être heureux ? Mais du coup, je pouvais pas partir du principe que tu l'étais pas, sinon ça faisait un peu bizarre parce qu'on se connaît pas.
Écoute, je pense pas, mais j'ai fait le deuil un peu de ça. En fait, c'est ça. Ça paraît prétentieux de dire qu'on n'est pas heureux. Genre, on est à l'aise avec le fait qu'on n'est pas heureux. Non, tout le monde veut être heureux. Il y a une différence entre être le sentiment et l'émotion, quoi. Je sais pas comment dire. Évidemment que des fois, on a le sentiment d'être heureux. C'est-à-dire, on a des petites choses fugaces qui nous traversent. On est en une soirée entre des potes et on passe une soirée archi heureuse. Mais le fond du roulement de notre cœur, c'est plus complexe. Je pense que quand on fait ce métier, la base de ce métier, c'est de prendre du recul. C'est-à-dire que quand on fait des blagues, une blague, c'est prendre du recul. Du coup, quand on est habitué à faire des blagues, surtout, et quand on est habitué à tout analyser, on se met à avoir un recul avec la vie, quoi. Et du coup, le fait d'être en recul avec tout ce qu'on rencontre, ça fait qu'on peut difficilement être heureux, puisque le bonheur, c'est frontal. Le bonheur, ça te tape, tu comprends pas pourquoi ça te tape. Alors que nous, dès qu'un truc nous tape, et qu'on rencontre, dès qu'il se passe quelque chose, on l'analyse. On se dit pourquoi c'est arrivé comme ça, pourquoi je l'ai vécu comme ça, pourquoi ceci. Mais je pense que c'est la même chose que de demander à un écrivain ou à quelqu'un, même à un journaliste, tu vois. Je pense qu'il y a peu de journalistes qui peuvent se dire je suis foncièrement heureux parce que leur métier c'est d'analyser ce qui va pas. Du coup.
Mais tu dis ça comme si c'était le stand-up qui t'avait rendu comme ça, mais tu.
Non, je fais du stand-up parce que je suis comme ça.
Oui, c'est
pas. Ah ouais. Oui, bien sûr, mais après, c'est juste que ça s'aggrave. Nous, on appelle ça la maladie du stand-upper, mais il y a un super doc qui a été fait il y a pas longtemps par Funny or Die sur le lien. Entre la dépression clinique et les humoristes.
Oui,
après le suicide de Robbie Williams.
Laughing Matters.
Je crois, ouais. Et c'est super intéressant. Ils te mettent Daniel Brennan qui a fait une énorme dépression. Ils te mettent beaucoup, beaucoup d'humoristes et ils montrent que c'est une des catégories socioprofessionnelles où il y a le plus de dépression. Et c'est pour ça que je pense que c'est difficile de dire oui, je suis heureux. Je pense que c'est vraiment. C'est difficile. Mais je pense que peu de gens aussi peuvent dire je suis vraiment heureux. Tu vois, je pense que peu de gens sont heureux parce que. Souvent quand on croise quelqu'un qui est heureux, on se le mentionne. Ça veut bien dire que c'est la normalité, ça veut bien dire enfin L apostrophe anormalité, je sais pas si ça existe ce mot. Ça montre bien que c'est l'exception qui confirme la règle. Quand on croise quelqu'un qui est jovial et que tu vois que cette personne est heureuse, tu te dis waouh, c'est fou, Bruno, il a l'air content. Et donc ça veut bien dire que la plupart des gens ne le sont pas. Donc je pense que c'est pas que nous.
Comment t'as fait ton deuil de ça ?
Ça m'est arrivé assez. En fait, c'est arrivé par petits à-coups. C'est-à-dire que moi, vu qu'on en parlait tout à l'heure, mais je dissocie très, 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 très peu vie privée, vie personnelle. D'ailleurs, je pense que pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand j'arrête genre mon travail et que je retourne dans ma vie, j'ai l'impression de pointer au boulot. Genre, j'ai l'impression de devoir réfléchir à ce que je fais, de calculer parce que je suis moins à l'aise peut-être socialement que dans la vie que sur scène. Mais du coup. J'ai commencé à comprendre que quand j'avais des ambitions, des choses à atteindre, et que je les atteignais, je ressentais rien, et que je voulais juste atteindre un autre point, en fait, avancer, je me suis dit, ça va être difficile d'être heureux. Tu vois, je me souviens la première fois que j'ai fait mon spectacle, c'était un truc auquel je pensais depuis 5 ans quasiment. Puis après, j'ai commencé la scène 2 ans après avoir cette réflexion, puis, et ainsi de suite. Et quand c'est arrivé, la première date, je suis sorti, j'étais énervé, et je me disais, j'ai hâte de faire la deuxième date pour. Et à aucun moment, j'ai ressenti un plaisir de waouh, mec, t'as fait ta première date devant 100 personnes, même s'il y a eu plein de foirades, ce qui est normal, c'était quand même cool. Tu t'es fait applaudir à la fin, c'est un truc de ouf. Et bah non, à aucun moment, j'étais heureux, je me disais juste, je veux faire la deuxième date, je veux être mieux, j'ai loupé ça, je m'en veux. Et du coup, c'est plein de petits à-coups comme ça qui m'ont fait me dire, ça va être plus compliqué que prévu d'être stable là-dessus.
Et du coup, qu'est-ce qui te donne envie de vivre en fait? Enfin, qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce qui te dit, ouais, ça va être cool quand même?
Bah, j'ai une excitation par rapport au taf. Je pense que c'est ça qui me... C'est-à-dire que je me lève en me disant, ouh, faut que je fasse ça aujourd'hui, je suis un peu excité. Je pense que ce qui me fait bander, c'est mon taf, quoi. Plus que le fait d'être heureux de mon taf. C'est vraiment... C'est comme si, moi, des fois, j'ai l'impression de suivre une petite série, quoi. C'est d'être dans... je sais pas, des fois, je vois... Je sais pas, on a vraiment ce troisième œil qui nous regarde tout le temps. Et des fois, quand je fais, je sais pas, des rendez-vous au Théâtre du Rond-Point, dans la salle de 800 places, qui est une des salles les plus stylées de Paris, et que je suis là pour faire les lumières et tout, j'ai un petit troisième œil qui regarde et qui est excité, comme dans une série, comme si tu suivais un perso depuis tout petit, depuis qu'il faisait des dessins de tub dans sa chambre quand il avait 6 ans. Jusqu'à là, t'es en mode, waouh, ouais, c'est trop cool pour ce personnage dans la série qu'il arrive à jouer ici. Ben, moi, j'ai ce truc. Et mon bonheur, il vient de là, je pense. Le fait que le côté. Je me lève et je vais faire ça, c'est pour être témoin en fait de ce que je vis. C'est bizarre peut-être, non, je sais pas.
Ouais, je pense.
Ouais, c'est le troisième œil quoi.
Ouais.
C'est l'excitation d'être témoin du truc.
Et qu'est-ce qui te fait ressentir des choses folles? Y a pas des trucs genre on parlait de ça avec Thomas Wiesel, il m'a dit le sport de.
Autant ouais, Thomas il est sportif putain. J'ai été en coloc un mois avec lui à Montréal et l'autre c'est je me souviens je me faisais réveiller par ces bruits de push-up. Non, je sais pas ce qui me fait une excitation folle. J'ai pas encore trouvé le truc qui me fait une excitation folle.
Est-ce que t'as plus peur qu'avant?
Est-ce que j'ai plus peur qu'avant de quoi?
De sortir de ta zone de confort. Ou en tout cas, avant t'avais l'air de pas savoir qu'il y avait.
Ouais, c'est ça, j'ai plus peur qu'avant. Non, c'est pas que j'ai plus peur, c'est juste que je suis plus conscient que ça peut foirer. Parce que ça m'est arrivé, ce qui est normal, mais du coup quand j'étais un peu plus jeune j'étais plus taré parce que je savais pas que si ça se passe mal c'est une énorme claque dans ta gueule. C'est comme, je sais plus quel humoriste disait ça, ah non je crois que c'est dans une série, mais en gros il disait tu prends un rat, la première fois que tu lui donnes un électrochoc il comprend pas ce qui lui arrive et tu continues et puis à un moment le chat il va devenir agressif et peureux, il va plus vouloir sortir parce qu'il aura peur de s'en prendre. Et je pense que ça, ce qui est normal, ça arrive à tout le monde au bout d'un moment, tu vois. C'est-à-dire que quand t'es un peu jeune, t'es un peu insouciant. Enfin, j'ai 12 ans toujours, hein, mais quand t'es un peu plus jeune, genre, tu fais des trucs un peu plus de taré en n'ayant pas peur et en disant, mais je m'en fous, qu'est-ce que j'ai à perdre. Et puis après, 5 ans plus tard, t'es en mode, la vie en fait, tu peux perdre la vie. Clairement, tu peux mourir. Donc fais attention à toi. Et du coup, tu réfléchis un peu plus quand tu te sors de ta zone de confort. J'ai pas plus peur, mais je suis plus frileux.
Genre comme quand t'as appelé Gérard Depardieu et que vous avez parlé d'architecture.
Exactement, ça par exemple c'était vraiment de la pure insouciance. Alors qu'aujourd'hui je ferais pas ça, tu vois. Aujourd'hui j'ai le numéro d'Isabelle Adjani, j'irai pas l'appeler pour dire ah, alors tu me donnes un rôle dans ton film à ma cocotte, tu vois, ça n'arrivera pas. Alors qu'il y a vraiment, c'était quoi, c'était il y a bientôt 10 ans que j'ai fait ça à Depardieu, un peu moins de 9. Je m'en battais les couilles, je me disais mais il va kiffer, je suis un gars cool, il va le sentir. Maintenant je me dis mais tout le monde s'en bat les couilles de toi. Tu les appelles, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la vie. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie, monsieur. Donc ouais, je pense que c'est juste plus frileux. Puis aussi plus adulte, quoi. C'est normal, plus mature.
Est-ce que le fait que t'es très jeune, traîné avec des gens plus âgés et que t'es bossé tôt et t'es mûr tôt et tout, est-ce que t'as l'impression d'avoir perdu des années d'insouciance?
Ouais, oui, oui.
Est-ce que ça te saoule ou est-ce que tu dis ouais, bon, moi j'ai gagné du temps, enfin...
Bah, je pense que ça me saoulera plus tard. Je me suis déjà fait ce constat. Je pense que ça me fera un peu plus mal plus tard. Là, ce qui est un peu compliqué en ce moment, c'est que j'ai aucun ami de mon âge. La plupart de mes potes ont la trentaine. Et moi, j'entre dans la vingtaine. Et du coup, c'est un peu dur parce que j'ai envie de vivre des trucs de vingtenaire, mais je traîne qu'avec des trentenaires. Et du coup, rien que là, je me dis putain, là aussi, tu vis les trucs un peu en décalage, quoi. C'est comme quand tu regardes une série à partir du deuxième épisode, quoi. T'as un truc de j'aurais jamais le kiff d'avoir bien connu les persos comme tout le monde les a connus. Moi j'ai un peu ce sentiment avec moi, je pense que un jour je me rendrai compte que je me suis connu d'une manière où j'aurais pas dû me connaître comme ça. Et du coup des choses que j'ai loupées, que je rattraperai plus tard, ça va peut-être mélanger certains trucs.
Tu vas te taper genre une crise de la trentaine
Je sais pas, je pense que je me suis tapé ma crise de la quarantaine là
ouais.
À 20 ans, et je pense que je me taperai ma crise de la vingtaine à 40. Je pense que c'est ça qui va se passer.
T'es confiant pour la suite?
De
tout.
Ça veut rien dire, hein. Je suis désolé.
Bah, t'es confiant, genre, est-ce que t'as l'impression que ça va être, que tu vas te sentir ok, tu vois? Que tu vas être fier de ce que tu fais, que ça...
Ouais, je pense que oui. Ouais, je suis confiant. Je suis pas confiant pour la Terre. Par exemple,
t'as raison.
Pour la Terre,
en effet.
Pour les humains, je suis pas confiant. Non. Trump, pas confiant de ouf. Macron, absolument pas confiant.
Mais la France, de manière générale.
Le monde, hein. Monde avec. La galaxie, ça va. Un peu confiant sur la galaxie. Ouais. Je pense que même sans nous, elle subsiste.
Tu penses quoi de Pluton?
Hein?
Tu penses quoi de Pluton?
Archi confiant sur Pluton. Archi confiant. Pour ma planète, mais archi confiant.
Oui, pour moi aussi, mais c'est.
Archi confiant.
Ok.
Après, personne m'a demandé mon avis sur Pluton. Officiellement, j'ai jamais reçu un coup de fil de la NASA qui me dit c'est quoi votre avis juste planète. Ah, ok, il a dit planète. Bon, on change tout. Réimprimer les 18 milliards de bouquins de science des enfants du monde entier. On revient sur planète.
Panayotis reprendra les représentations de son spectacle presque si le Covid ne s'en mêle pas au Grand Point Virgule à Paris en septembre et octobre 2020 ainsi qu'au Théâtre du Rond-Point en novembre et puis un peu partout en France en 2021. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux pour retrouver toutes les dates. Merci d'avoir écouté Les gens qui doutent. C'est très gentil, ça me fait fort plaisir et j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous venez de découvrir le podcast, eh bien bonne nouvelle, vous avez plein d'épisodes à rattraper avec Kian Kojandi, Thomas Wiesel, Sophie-Marie Larouille, Adrien Méniel, Flaubert et plein d'autres. Vous pouvez vous abonner via votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes et tout pour m'aider à devenir une véritable vedette du podcast game. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en donnant vos thunes le plus possible via Patreon en faisant un don de la somme de votre choix. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet pour ne rien manquer de la suite. Bisous. Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Wattieu.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.